J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait.
Moi, c'est André Dimbima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Pour réussir la campagne agricole 2012-2013, le gouvernement a disponibilisé 56 millions de dollars américains dans le but d'atteindre l'agriculture du développement. Cette campagne vise le développement de l'agriculture suivant les spéculations de chaque province. Notons que la production agricole de la RDC s'est en effet réduite depuis quelques années à des activités de subsistance malgré des conditions naturelles favorables. Environ 97% des terres arables bénéficient d'une saison culturelle de plus de 8 mois dans l'année. De plus, 34% du territoire national sont des terres agricoles dont 10% seulement sont mises en valeur. Quelles seraient pour vous les priorités à prendre en compte dans cette campagne afin d'améliorer le niveau de vie de la population? Nous en parlons avec le docteur Ali Ramazani, secrétaire général à l'agriculture. J.R. Lungembo, Titim Poutou sont à la réalisation de cette émission mise en nom de Paris, Politique Kapanga et Dieudonné Nyangasa. Une présentation de Pierrot et la Meiji sous l'aspect vision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La campagne agricole 2012-2013 lancée au mois de juillet dernier par le Premier ministre a disponibilisé 56 millions de dollars américains dans le but d'atteindre l'agriculture du développement. Cette campagne qui vise aussi le développement de l'agriculture suivant les spéculations de chaque province. Nous en parlons avec vous dans cette émission et notre invité est déjà en ligne, Dr Ali Ramazani, qui est le secrétaire général à l'agriculture. Et la préoccupation avec vous et nous, c'est de savoir quelles seraient les priorités à prendre en compte dans cette campagne afin d'améliorer le niveau de vie de la population. Vous pouvez intervenir au 081 890 43 39 pour votre intervention en direct, mais aussi nous déposer un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Docteur Ali Ramazani, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la campagne agricole 2012-2013 lancée au mois de juillet de l'année passée. Et la première question, c'est de savoir, avec les auditeurs ensemble, où en est-on aujourd'hui sur terrain avec les activités de cette campagne?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question et surtout pour l'intérêt que vous portez pour le secteur agricole. Bon, en ce qui concerne la campagne, comme vous venez de le dire, nous avons commencé à travers 11 provinces. Il est à dire que c'était un exercice un peu difficile puisqu'on s'est repris donc pratiquement au début même donc de la saison des pluies. Mais tout a été mis en œuvre parce que Son Excellence Monsieur le Premier ministre a mis les moyens et mis à contribution le bureau du BCECO pour nous accompagner dans cet exercice. Il fallait non seulement dans cette première campagne, dans cette première phase, mobiliser les semences puisque, comme vous le savez, il y a maintenant la loi sur la passation des marchés. Mmh. Alors, tout ce qui est comme outillage, aratoire et autres engins d'utilisation qui doit passer nécessairement par ce processus, nous a pas permis d'acquérir pour la première campagne, donc la saison que nous avons commencé, les équipements nécessaires. Mais on a pu disponibiliser les semences là où c'était possible. Et les activités ont commencé dans beaucoup de provinces et nous avons un écho positif dans ce sens-là. Mm-hmm. Maintenant, au stade actuel, c'est mm-hmm. que nous sommes en train maintenant de préparer maintenant la grande saison, la saison donc qui va commencer ici au mois de septembre, en mobilisant tout ce qui est nécessaire. Donc tous les marchés qui devaient être passés pour l'outillage agricole et d'autres semences sont déjà en train d'être réalisé, l'acquisition des vaccins pour ce qui concerne le domaine de l'élevage sont déjà en cours de réalisation, ainsi que les équipements de pêche et de l'aquaculture.
Mais et au niveau du gouvernement, en fait, au niveau du ministère de l'Agriculture, quels ont été les axes prioritaires pour cette campagne? C'est effectivement spécifiquement dans quel domaine d'intervention que cette campagne s'intéresse, vu les moyens qui sont mis à disposition?
Oui, pour cette première campagne, comme nous avons dit, nous avions eu à épingler quelques composantes qui sont tout à fait considérée comme prioritaire. Nous avions donc de ce fait prendre la composante numéro 1 qui est l'amélioration de la production vivrière, c'était la, donc la multiplication du boutier de sème de maïs de manioc, l'acquisition des étrants de semences, de maïs, des haricots, de la pomme de terre, du riz et des cultures maraîchères, et aussi dans le conseil qui concerne pour le poisson, c'est donc la réhabilitation de certains étangs piscicoles donc pour la multiplication des alevins. Et au niveau de la santé animale, c'est comme vous le savez, il y a une maladie qui décime actuellement les petits ruminants, donc les chèvres dans toutes les provinces pratiquement.
Oui.
C'est ce que nous appelons la peste des petits ruminants, l'acquisition des vaccins et aussi d'autres maladies qui se trouvent à l'est, comme la fièvre aphteuse et la péripneumonie contagieuse des bovidés. Là aussi, on a dû passer les vaccins pour intervenir dans ce secteur-là. Toujours dans la campagne, comme on le sait, on ne peut pas promouvoir la production agricole, ça qui est la réhabilitation et la qualité des routes et des sites agricoles. Et dans chaque province, on a pu identifier les routes qui mènent, les axes qui mènent vers les bassins de production, là où nous avons ciblé des actions pour réhabiliter ces routes et pour entretenir de façon à ce que, non seulement que les étrants que nous achetons puissent être acheminés sans problème jusqu'au lieu de travail, et aussi faire sortir la production agricole vers les centres de consommation. Le dernier aspect qu'on a pu mettre encore toujours dans la campagne, c'est mettre de l'eau potable dans le milieu rural. Donc c'est aussi, c'était une activité qui a été réalisée. Ça, on a pu déjà réaliser à 100% pour tous les puits qui ont été retenus et qui sont maintenant déjà qui sont opérationnels. Voilà. Et au niveau de la pêche, je n'ai pas oublié, c'est l'acquisition donc des équipements, des intrants de pêche pour qu'il y ait donc la prise de poissons dans nos cours d'eau.
Mais quand on regarde le montant alloué, 56 millions de dollars en deux tranches, je crois bien, c'était 26 millions pour l'année passée, 30 millions. Pensez-vous que le montant est nécessaire pour couvrir vraiment le besoin exprimé dans cette campagne?
Donc pour la première tranche, nous avons établi sur les 23 millions qui ne sont pas encore toutes consommées, comme je vous ai dit, parce qu'il y a ces équipements, les intrants et l'outil aratoire que nous avons commandé. Donc, sont en cours d'arrivée et d'être réceptionnés à travers les provinces. Comme vous le dites, bon, le Congo est vaste. On peut mettre même 200, 300 millions. Ce sera toujours insuffisant par rapport à nos besoins. Mais nous devons regarder la capacité d'absorption de ces ressources. Parce que qui travaille réellement sur le terrain dans la production agricole, ce sont les petits paysans. Ils continuent encore avec la houe et donc les outils traditionnels. Mais il se fait aussi que nous devons, entre-temps, agrandir les cercles de la production en allant aussi vers le secteur privé qui sont bien outillés pour faire aussi de grandes productions. Donc c'est ce que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture sont en train de s'atteler à faire l'agro-business. Donc, comme vous le savez, les axes de route nationale numéro 1, si vous quittez de Boma, vous arrivez jusqu'à Tikwit en passant par Kinshasa. Le long de cette route, il n'y a pas d'agro-industrie. Il n'y en a pratiquement pas. Sauf au niveau du Bas-Congo, il y a le Kwilungongo et un peu de Gilles Valenquer. Mais toute la route vraiment est pratiquement vide de part et d'autre. Vous voyez, il n'y a pas de grandes fermes, il n'y a pas de grands champs non plus. Bon, sur la route de Bandundu, on commence à faire des grands champs le long de la route, ce qui serait vraiment de quoi valoriser donc l'important capital qui a été mis pour la réhabilitation de cet axe de la route numéro 1.
Voilà, merci. On vous garde en ligne, docteur Ali Ramazani. Les auditeurs sont encore avec nous. Joël Letalbumbashi, Michel Matadi, dans la province de Bas-Congo. Quelles seraient pour vous les priorités à prendre en compte dans la campagne agricole 2012-2013 selon les besoins et dans votre milieu? 081-890-4339, c'est notre numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Joël, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour. Joël, bonjour. On a des petits soucis avec la ligne de Joël. On pourra peut-être revenir chez lui dans le Katanga, mais nous prenons directement Michel qui est à Matadi dans la province de Bas-Congo. Bonjour Michel. Voilà, apparemment c'est un petit souci sur les lignes téléphoniques. Michel pose aussi le même problème que Joël. Mais nous allons revenir à notre invité, à Dr Ali Ramazani. Vous êtes avec nous. Est-ce que dans cette campagne, vous prévoyez aussi les spécificités en fonction des provinces? Par exemple, le Bandundu, qu'est-ce qu'on peut investir dans quelle culture, au Kasaï, au Maniema, en fonction bien sûr des spécificités de chaque province?
Oui, vous avez raison. C'est comme nous sommes allés parce que nous avions un montant qui est assez limité dans le temps et dans l'espace. On a voulu que nos actions soient visibles, beaucoup plus visibles, et nous avions ciblé. On n'a pas pu prendre des spéculations dans l'ensemble. Je peux vous donner un exemple tout simple. Pour la production des parcs à bois, c'est ce que nous appelons les boutures de manioc pour pouvoir agrandir les champs de la production de manioc. Mmh. Nous avons pris les Bandundu, et dans Bandundu, nous avons ciblé à Mouchi, à Idiofa, à Bulungu, à Masinanimba, à Kikwit, Bandunduville, Pupokabaka, Kasongolunda, Bagata et Kenge. Mmh. Nous avons pris aussi les Bakongo, Madimba, Mbazangungu, Tchela, Lukula et Songololo, si je ne me trompe pas, Nord Kivu, Rutshuru, Lubero et Beni, province orientale, Bafassende, Tchopo, Bazuele et Otuele. Ça, c'est la spéculation production des parcs en bois. Nous savons qu'avec les parcs en bois, on peut les disséminer à travers les pays et moyennant les moyens de transport. Mm-hmm. Nous prenons les riz. Les riz, par exemple, ce sont des spéculations. Dans la province orientale, on a ciblé les territoires d'Isangi, d'Opala, de Banalia et d'Ubundu. Mm-hmm. Nous avons pris les Maniema, Kasongo, Kabambare et Pangi. Et puis l'Équateur, Bumba, Bukungu et Mbandaka, qui sont vraiment des grands centres de production du riz. Pendant cette période que nous avons. Ainsi de suite, vous pouvez prendre le maïs, la pomme de terre, les haricots, les cultures maraîchères, donc Kinshasa, Bakongo, Nord Kivu. Ce sont donc, on a pu cibler pour que ces productions-là soient beaucoup plus visibles et que les résultats donc se remarquent facilement. Mm-hmm. L'élevage, comme vous avez dit, la fièvre aphteuse, c'est dans l'est du pays, dans le Nord Kivu. Les fils qui vous, on a pu pour la péripneumonie contagieuse des bovidés, mais les petits ruminants, comme on les trouve maintenant avec la maladie des perses, des petits ruminants dans les Bandundu, à l'Équateur, maintenant ça va jusqu'au Kasaï. Et on a même remarqué, je viens de recevoir les messages tout de suite là, au Maniema même, il y a des chèvres qui commencent à mourir en cascade. Et là, on va encore renforcer la quantité de vaccins à pouvoir vacciner. Mmh. La pêche, on a pu cibler des provinces, Kinshasa, Bakongo, Équateur, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, la pisciculture, la même chose, province orientale, Bakongo, Kasaï oriental, avec des centres bien précis pour que les actions soient visibles. De même, les routes des recettes agricoles, tout comme le forage d'eau, c'est bien ciblé. Bandundu, 10 forages, Bakongo, autant de forages, Équateur, donc il n'y a pas de,
c'est bon.
Il n'y a pas de navigation à vie. C'était bien programmé et planifié.
Oui, mais ça c'est par rapport à toutes ces interventions, mais il y a aussi un problème, vous souvenez, quand nous avons eu, il y a l'année dernière, l'émission avec vous autour du développement de l'agriculture, nous avons aussi évoqué le problème de renforcement des capacités de la formation. Est-ce que cela est prévu? Parce qu'on s'était dit, vous rappellerez, Dr Ali Ramazine, dans l'émission passée, qu'aujourd'hui, les écoles de formation de moniteurs agricoles, si on peut dire ainsi, même des agronomes, ont tendance à être négligés, ont tendance à disparaître. Même les espaces que ces écoles ont pour la pratique se pose aujourd'hui, mais est-ce que dans ces plans, il y a aussi ce volet formation pour un investissement dans l'avenir?
Oui, bon, vous avez épinglé un problème assez crucial. Oui, la formation, c'est la base même de la réussite de toute activité dans la production. La formation continue, tout comme la formation des bases. Bon, pour ces programmes, nous avions dans les cadres comme la pisciculture, comme à chaque niveau, il y a un volet formation des utilisateurs, formation des bénéficiaires. Mais dans l'optique du gouvernement, nous avons signé aussi des contrats avec des partenaires. Mm-hmm. Je vous donne les cas typiques avec la coopération technique belge qui intervient en République démocratique du Congo dans 4 provinces seulement pendant les pics 2010-2013, mais qui va continuer jusque vers 2014. Mm-hmm. Quelles sont ces provinces? Il y a la province orientale, donc de la Tchopo. Toutes les écoles techniques dont vous connaissez, il y a la faculté d'agronomie qui se trouve dans Yangabi. Vous prenez la province du Maniema, dans les sites du Maniema, les Kabambare vers Kasongo et Kibombo. La province de Kasaï oriental, en Gadajika, et consorts, et aussi dans la province de Bandundu. Nous avons quatre provinces et nous avons un grand volet avec un financement très important pour la réhabilitation de toutes les écoles techniques agricoles. La réhabilitation et les équipements de ces écoles qui entrent dans ce que nous appelons le PIC, qui est le programme indicatif de coopération, en dehors de l'agriculture, des infrastructures de communication comme les routes BAC et BAC, et aussi la formation des écoles techniques. Voilà les trois zones de concentration de la coopération technique belge à République démocratique du Congo. Et nous ciblons d'abord ces quatre provinces. À sortant de ces quatre provinces, on va voir aussi à l'Équateur, il y a de très bonnes écoles, au Katanga, il y a de très bonnes écoles. On va cibler aussi non seulement les écoles universitaires qui forment les agronomes, les ingénieurs agronomes, ainsi que les médecins vétérinaires dans les facultés de médecine vétérinaire, mais des écoles techniques qui forment les agronomes A2, A3. Les vétérinaires A2, A3, pour qu'au niveau des strates, des différentes catégories d'intervenants dans le secteur agricole, il y ait des capacités à tous les niveaux pour remettre vraiment à un niveau acceptable notre système de production agricole.
Alors, on vous garde en ligne, docteur Ali Ramazani. Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de la campagne agricole 2012-2013. Quels sont les axes prioritaires selon les besoins des auditeurs dans leur milieu? On a eu des petits soucis des lignes téléphoniques depuis le début de cette émission avec les deux premiers auditeurs. Continuez à nous appeler au 081-890-6315. Ça va s'améliorer. Je crois que vous allez intervenir. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais vous sentez peut-être que vous avez des difficultés à nous joindre. Nous sommes en train d'améliorer la situation. Vous allez passer en direct dans cette émission consacrée à l'agriculture.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, Inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19 heures, bienvenue dans Capi Soir.
Nous avons en ligne Jean qui est ici à Kinshasa. Bonjour Jean. Jean, vous êtes avec nous, bonjour. Ah, désolé, vraiment dommage qu'on vient de perdre Jean qui était déjà en ligne de Kinshasa dans la capitale. Un peu de soucis, mais ça va pouvoir s'améliorer d'un moment à l'autre pour intervenir. Je vous rappelle le sujet, c'est la campagne agricole 2012-2013 lancée par le gouvernement de la RDC dans le développement de l'agriculture. Nous en parlons avec Dr Ali Ramazani qui est secrétaire général à l'agriculture. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais on a des petits soucis des lignes téléphoniques. Ça pourra s'améliorer d'un moment à l'autre. Docteur Ali Ramazani, je crois qu'on a eu l'autre fois une évaluation par rapport à l'usage des tracteurs qui ont été distribués, vous rappellerez, pour la mécanisation de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une différence entre les autres actions menées et initiées par le gouvernement dans le développement de l'agriculture dans les temps passés et la campagne actuelle, mais aussi la place de ces tracteurs qui ont été distribués à travers le pays pour l'augmentation de la production agricole?
Oui, oui, vous avez raison donc de poser cette question. Vous savez, les campagnes agricoles, comme on avait l'impression de le dire, même par le passé, c'est vers la fin des années 90 qu'on a cessé à programmer effectivement des campagnes agricoles. Ça veut dire une campagne organisée dans laquelle le gouvernement s'implique en apportant l'appui aux petits producteurs. Donc, depuis tout ce temps-là, il y avait des campagnes, les gens s'organisaient eux-mêmes, où on a donné des appuis tout à fait ponctuels, voilà. Mais cette fois-ci, le Premier ministre a pris la chose en main, il a pu organiser la campagne agricole. Et il a promis que ça sera chaque année, et on va aller en augmentant notre capacité d'intervention. Donc, les tracteurs ont toute sa place. C'est vrai que depuis qu'on a mis à la disposition des producteurs les tracteurs sur le terrain, très peu de ces machines ont été réellement orientées dans le travail des terres. Et ce que nous avons déploré et que nous avons fait un constat, et avec les recommandations de tous les niveaux de l'échelon supérieur, c'est de récupérer ces machines pour en faire des brigades agricoles à intervenir en priorité pour les petits producteurs et en fait d'alléger leur travail donc de champs et aussi à pouvoir les aider à augmenter leur espace donc de travail. Donc pour cette campagne, le travail des tracteurs ont été mis à contribution.
Mm-hmm.
Je vous donne un exemple, ceux qui vont sur la route des Bandundu, c'est le cas typique quand vous quittez le Kinshasa avant d'arriver à Massimanimba, vous allez voir de gauche et à droite les étendues des champs qui ont été labourés avec sous la direction du gouverneur des provinces de Bandundu.
Mm-hmm.
Dans ces champs-là, de plusieurs centaines d'hectares, plus d'un millier d'hectares, les villages sont appelés à chacun à obtenir une portion de terre, n'est-ce pas, qui est déjà labourée, et à pouvoir travailler sur ces portions de terre.
Mm-hmm.
Quitte à ce que les remboursements de contributions de frais inhérents donc à toutes les préparations de sol et consorts et à la distribution de semences, on les retrouve après la récolte.
Mm-hmm.
Vous quittez l'axe jusqu'au niveau de Massimanimba, vous prenez de l'autre côté jusqu'à arriver à Kimbinga, vous dépassez Etiquit, vous allez voir de part et d'autre l'implication, donc l'importance des machines telles qu'on a pu les exploiter dans la production agricole.
Mm-hmm.
Je vous assure que pendant la récolte qui est très prochainement, vous allez voir qu'une quantité assez importante de ces produits que nous consommons régulièrement, dont les manioc et autres, seront disponibles sur le marché. Que vous allez aussi au Katanga, je peux vous donner un autre cas d'exemple, au Katanga ou au Bas-Congo, à Kimpese, de Songololo, la même chose, il y a une forte implication des machines, des tracteurs dans les travaux des champs. Il y a encore des provinces où les activités des tracteurs ne sont pas encore très visibles. Je peux dire comme les Maniema, comme à peu près le Kassai occidental, donc où et l'Équateur aussi, où l'utilisation de ces machines ne sont pas encore au niveau même minimal.
Mm-hmm.
Donc nous allons, avec l'appui des autorités, continuer encore à renforcer les équipes qui vont aller aider à mettre donc ces machines selon dans les programmes de développement des provinces.
Mm, voilà, on vous garde. Et Freddy, vous êtes à Lubumbashi dans les Katanga. Bonjour Freddy.
Bonjour, Freddy de Lubumbashi.
Oui, Freddy, on vous écoute.
Vous voyez, moi, ce que moi, je suis en train d'imaginer, c'est dans notre pays, notre politique ne marche pas bien. Dans les jours qui viennent, notre pays sera comme un Mboujimaï. Comme vous voyez, les gens sont en train de fuir un Mboujimaï, tout est là-bas, dans la province de Kassai orientale. Maintenant, même ici au Katanga, moi je suis en train de fuir. Il est en train de réaliser ici à Lubumbashi. Ailleurs, ne fait rien. Ça c'est quoi? Ce que moi j'ai dit, Lubumbashi ici, dans les jours qui viennent, on va voir ce qui arrive en Mboujimaï.
Oui, Freddy, nous parlons de la campagne agricole. Pour vous, quelles sont les priorités dans le Katanga dans cette campagne agricole 2012-2013?
Oui, maintenant j'arrive par rapport au sujet du jour. Moi, je ne suis pas d'accord. Tout ce qu'a parlé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment vous voyez ici à Lubumbashi, on est en train de blé ici à 23 000 francs. Est-ce que quoi ça sert à quoi? Parce que j'ai un peu tôt, maintenant, nos cas Congo pratiques. Vous trouverez là-bas.
Oui, on a des petits soucis avec vous, Freddy. On ne parvient même pas à suivre ce que vous dites et l'orientation de votre propos. Dommage vraiment que votre téléphone pose des petits soucis avec Kinshasa. Nous restons ici dans la capitale avec Jean qui est avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour, bonjour Radio Kafi, bonjour par aux auditeurs.
Bien, là, nous avons eu des petits soucis hein, pour avoir les auditeurs depuis le début de cette émission. Vous êtes avec nous, vous avez suivi notre invité, je crois bien, depuis le début de l'émission, tout ce qu'il a décrit. Et pour vous, dans cette campagne agricole, qu'est-ce qui doivent être pour vous les axes prioritaires?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bon, je crois que le sujet que nous traitons souvent sur le problème de l'agriculture, qui est le moteur d'ailleurs du développement de notre pays, souvent, ceux qui sont censés prendre des décisions ne prennent pas en compte leurs propositions. Et ça fait mal que nous faisons, disons, nous tournons toujours en rond sans prendre des décisions conséquentes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas la campagne. Le problème, c'est que nous avons des matériels. Nous avons les machines, les tracteurs. Alors, on l'affecte immédiatement à ceux qui doivent faire l'agriculture. Et on parle parler de la campagne, de la campagne. La campagne, ça fait quoi? Ce sont des théories. Oui, c'est là les théories, mais nous voulons faire quelque chose de pratique. Il y a des écoles, ici à Kinshasa, où on forme les agriculteurs. Il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez aller à cette école-là, vous demander, par exemple, ici, vous avez besoin de quoi? Par exemple, les semences. De quelles semences vous avez besoin? Alors, pour quelle étendue? Vous donnez, vous passez à la pratique immédiatement, au lieu de faire des campagnes, que des campagnes ont déjà organisé ici à Kinshasa. Il n'y a pas d'efficacité. C'est-à-dire, évaluer peut-être, commencer par là, évaluer les besoins qui sont dans les besoins, par exemple, de certains matériaux pour l'agriculture. Alors, on va vers cela, on est... On élabore un budget, on donne les matériels immédiatement à cela, et après, maintenant, on va voir les fruits de cela. Au lieu de parler de la campagne, les campagnes ne produisent rien.
Oui, mais Frédéric, Jean, peut-être que vous n'avez pas bien compris l'invité. Ce que vous dites, l'évaluation, l'état des besoins, les budgets, tout est élaboré dans la campagne. Peut-être que c'est l'invité qui pourra nous aider à comprendre au niveau du ministère de l'Agriculture, quand on parle d'une campagne, ce que ça veut dire pour qu'on lève cet équivoque, mais tout ce que vous avez dit, l'achat de matériel, rencontrer ceux qui ont besoin de matériel, investir dans ces matériels et voir les résultats après, je crois ce qu'elle a donné dans les différentes interventions de notre invité tout à l'heure, peut-être qu'il pourra nous expliquer pourquoi on utilise le terme campagne Jean.
J'ai bien compris, je l'ai bien suivi, mais vous pouvez seulement vous rendre compte, monsieur le ministre, ça fait quelques temps, à Kinshasa, on a vu des tracteurs défiler ici, aller vers Kinkole, vers Maluku, soi-disant pour faire l'agriculture, ça va calmer la faim à Kinshasa. Mais il fallait d'abord commencer par voir qu'est-ce que ces tracteurs ont produit. Ça n'a rien produit, on n'a rien fait, on n'a rien vu. Parce que vous avez dit que non, après cela, on va exposer le produit à la foire internationale de Kinshasa. Mm-hmm. Mais on n'a rien vu jusqu'alors. Donc c'est ce que nous ne voulons pas rester dans les théories comme l'invité l'explique si bien, il le maquille bien. Mais nous voulons la pratique et la concrétisation.
Ok, merci beaucoup Jean. Nous allons donner la parole directement à notre invité. Je rappelle notre numéro de contact 081-890-6315. Si vous êtes avec nous, docteur Ali Ramazani, vous avez suivi, l'auditeur Jean de Kinshasa est très inquiet par rapport au terme campagne. Deux fois, peut-être les gens ne comprennent pas quand on dit la campagne agricole, ça veut dire quoi? Parce que ce qu'il demande, il souhaite, ce n'est pas différent de ce qui a été dit depuis le début de l'émission, mais peut-être le problème c'est pourquoi avoir choisi le terme campagne pour expliciter un peu ça auprès des auditeurs.
Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié M. Jean qui est avec son coup de cœur pour parler de ce qu'il souhaiterait voir. Parce qu'il a dit la même chose, c'est qu'il a expliqué la campagne à sa manière tout en refusant le mot campagne.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, je crois que son idée n'est pas mauvaise d'évaluer les besoins et d'aller vers les producteurs avec les intrants et de tout ce qu'il faut pour produire. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous appelons campagne. Campagne agricole, ça veut dire quoi? En termes beaucoup plus simples, c'est la saison des pluies qu'on utilise pour la production agricole. Parce que chez nous, ici, en République démocratique du Congo,
mm-hmm.
on dépend encore de la pluie pour produire dans l'agriculture. Sous d'autres cieux, en Afrique du Sud ou autre, où la pluie n'est pas aussi abondante qu'ici, les gens utilisent beaucoup plus l'irrigation et le système d'arroser avec le système d'irrigation, tout à fait mécanisé, vraiment à grande échelle. Mais ici, nous dépendons de la pluie. Et quand nous disons campagne agricole d'une saison A ou saison B, nous prenons la période qui commence par la préparation du sol. Parce qu'il ne pleut pas à ce moment-là, comme ici vous pouvez voir au mois de juin, juillet, il ne pleut pas,
mm-hmm.
les gens se mettent à préparer le sol, à défricher, à ranger le sol, et puis quand les pluies vont acheter des semences, acheter des équipements, et vraiment, c'est pendant cette période-là, on prépare cette saison-là de pluie qui va commencer.
Mm-hmm.
Et tout cela, ça rentre dans ce qu'on appelle la campagne. Donc, on a besoin de semences, on a besoin de houe avant le mois de juin, donc voilà le mois de mai jusqu'au mois de juin, on achète tous ces équipements-là, les houes, les machettes. Si on a des machines, des tracteurs, on les répare, on les entretient, on les met prêts pour affronter au mois de juillet, août, on travaille correctement la terre. Et quand les pluies arrivent, n'est-ce pas, au mois de septembre, on trouve déjà que les gens se sont préparés pour produire jusqu'à à semer et à commencer à faire les activités des champs. Donc c'est ce qu'il a dit, c'est dit la même chose, et c'est ce que nous avons fait. On ne fait pas de la théorie, nous sommes allés dans chaque province et récupérer, donc travailler avec les associations des producteurs, des OP, que ce soit les Bas-Congo, Kinshasa, Bandundu, partout ailleurs, nous sommes allés, et chaque, au niveau de chaque province, on a pris donc les associations qui travaillent justement avec les spéculations que nous avons retenues.
Mmh.
Ils ont formulé leurs besoins que nous savions déjà, lesquels besoins le gouvernement a apporté les moyens pour rencontrer leurs besoins. Et ils ont, avec ces moyens, ils ont commencé à semer, à planter, et d'ici là, nous avons commencé, ce n'est pas quand nous avons commencé à semer il n'y a pas longtemps ici, aujourd'hui, donc le lendemain, vous commencez à voir les choses sur le marché. Il n'y a qu'à prendre de patience, parce que la terre vous donne à son temps. Il y a des choses qu'on a mis déjà depuis quand nous avons commencé l'action, ils vont se trouver sur le marché. Je suis sûr qu'ils ne se promènent pas beaucoup pour savoir aller un peu au marché de liberté ou aller un peu au-delà des plateaux de Bateke pour voir. Donc il ne parle qu'à la limite de ce qu'il voit ou de ce qu'il attend. Le Congo étant vaste, il ne faut pas qu'il commence à prendre des décisions ou à spéculer au nom de la République alors qu'il est dans un coin tout à fait limité.
Docteur Ali Ramazani, mais il y a aussi la question d'accès au crédit, par exemple pour de mutuelles ou des coopératives au niveau des paysans. Y a-t-il aussi cette possibilité de pouvoir permettre aux exploitants, même plus petits soient-ils, d'avoir accès à un crédit qui peut lui faciliter l'acquisition des intrants ou peut-être des autres matériels aratoires, vu que les gens n'ont pas assez de moyens, ceux qui se donnent à l'agriculture aujourd'hui dans les milieux ruraux n'ont pas assez de moyens?
Oui, ça c'était un problème fondamental. Ça, vous savez, intervenir dans le secteur agricole, actuellement ce que nous faisons au pays, c'est chacun intervient avec ses moyens propres. Alors ce n'est pas ça.
Mm-hmm.
On ne peut pas vraiment avec ses ressources propres commencer des grandes activités de champs, à moins que vous ayez des ressources assez importantes, donc provenant peut-être de l'héritage ou, n'est-ce pas, vous avez gagné au loto.
Mm-hmm.
Sous d'autres cieux, en principe, ce qu'on fait, c'est les gens ont accès à des crédits. À des crédits agricoles, comme aussi à des banques. Bon, nous avions ici, par le passé, vous saviez, nous avions ce qu'on appelle la banque de crédit agricole.
Oui.
Mais qui n'a pas fait vraiment le rôle, donc, duquel on attendait de la banque de crédit agricole. Cette banque a donné de l'argent à des nantis du pouvoir qui n'ont pas remboursé et, comme conséquence, la banque est tombée en faillite.
Mmh.
Il y avait aussi, par le passé, ce qu'on appelle le fonds agricole. On avait acheté des grands véhicules ici, des marques Leyland, pour ne pas les citer. Et c'était des députés, des commissaires du peuple à l'époque, qui ont reçu ces camions, soi-disant pour faire des campagnes agricoles. Ça veut dire aller acheter après la production d'une saison agricole. Mais nous avions vu que ces camions étaient transformés en foule à foule ici dans la ville.
Exactement.
La loi agricole actuelle ouvre cette opportunité à partir de fonds agricoles qui sera généré. C'est pour faire accéder aux populations dans les milieux les plus reculés, avoir accès au crédit pour pouvoir agrandir ou bien commencer les travaux de la production agricole.
Mmh.
Avec ce fonds, parce que la loi agricole est sortie il n'y a pas longtemps, c'était promulgué le 24 décembre 2011, nous sommes en train de mettre une mesure d'application et des structures qui vont gérer ce fonds-là pour que ça ne soit pas comme par le passé, où ce sont les nantis qui ont eu à bénéficier de ce fonds, mais que ce soit vraiment réellement les petits producteurs qui puissent donc accéder au fonds fond agricole et pouvoir développer le secteur agricole. Donc, c'est le souci. En dehors de ça, il y a aussi la banque agricole qui est aussi en gestation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu déjà des contacts assez bien avancés avec les structures qui vont ouvrir les banques de crédit agricole vraiment pour essayer donc d'amener vraiment les fonds vers le secteur agricole.
Merci.
Je ne les méprise pas. Il y a des institutions de microfinance, les IMF comme on appelle, qui sont des petites coopératives qui sont implantées. Malheureusement, vous les trouvez dans les grandes villes. vous ne trouvez pas ces institutions rares
dans les milieux
vraiment dans les milliers de productions dans les territoires ou dans les villages.
Voilà. On vous garde en ligne 081-890-6315, 081-890-4339, mais aussi la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Joachim Etakananga au Kassai Occidental, nous allons lui accorder la parole. Vous avez besoin de mettre un point de vue par rapport à la campagne agricole 2012-2013. Quelles sont vos priorités et les priorités dans votre milieu? Vous êtes les bienvenus sur les antennes.
Parole aux auditeurs.
Joachim, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur Perrault et la Mengi. Bonjour aussi à l'invité.
Pour vous, quels sont les axes prioritaires à prendre en compte pour la campagne agricole?
Bon, en fait, moi, j'avais une question à poser à l'invité.
Oui.
Et c'est par rapport aux tracteurs qui étaient distribués, destinés aux, presque à toutes les provinces.
Mm-hmm.
Oui, je voulais demander parce que nous avons comme impression que ces tracteurs, nous ne les voyons pas. Donc, il a juste dit que c'est, les tracteurs étaient distribués, mais c'est comme si ces tracteurs sont maintenant chez, dans des gouvernorats ou, c'est pas moi, dans des résidences. On dirait qu'on a alloué ça à des sociétés privées qui utilisent ça, pas au bénéfice des gens pour lesquels le projet était établi. Je voulais maintenant que l'invité puisse nous dire, nous donner des précisions sur donc l'endroit où on pourrait être ces tracteurs-là.
Merci Joachim, vous êtes à Kananga, vous pensez que les tracteurs destinés à la province du Kassai Occidental ont été peut-être gardés ou destinés à des opérateurs privés. Si l'invité peut nous donner plus de précisions par rapport à ce qui a été fait avec les tracteurs, où sont-ils aujourd'hui? André, vous êtes à Bukavu dans la province du Sud Kivu, bonjour. André, vous êtes avec nous, bonjour. Assurément, aujourd'hui, on a des petits soucis vraiment avec les lignes téléphoniques, ce qui nous permet pas de vous avoir très nombreux comme d'habitude dans votre émission. Mais tant mieux que mal, nous avançons avec un des rares auditeurs que nous avons. André, cette fois-ci, ça, je crois que c'est bon. André, ça va? Vous êtes avec nous, André?
Bonjour Kiro et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Vous êtes à Bukavu, on vous écoute rapidement par rapport aux axes prioritaires à développer, n'est-ce pas, avec la campagne agricole.
Oui, il est certes vrai que pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, un des critères c'est qu'il faut relever le niveau de vie de la population. Et selon nous, nous pensons que relever le niveau de vie de la population demande aujourd'hui à diversifier un peu l'économie congolaise par l'agriculture, comme toutes les études le prouvent aujourd'hui, que changer le niveau de vie de la population par l'agriculture est possible. Et comment faire pour parvenir à relever le niveau de vie de la population par l'agriculture? Nous savons, vous irez dans tous les coins de la RDC, dans tous les villages de la RDC, vous trouverez des agriculteurs. Mais pourquoi ces gens continuent à mener une vie qui ne change pas des années et des années? Ceci nous pousse à demander au gouvernement de la République de mettre en place un programme cohérent, un programme national où tout le monde se retrouverait. On a vu l'expérience passée avec la distribution de tracteurs qu'on est allé remettre à des amis, on a remis à des frères et qui n'ont pas porté des résultats escomptés. Aujourd'hui, vous posez la question aux dirigeants, ils balbutient, ils ne savent pas vous donner les résultats concrets de ce que ces tracteurs ont donné. Aujourd'hui, le gouvernement a mis à la disposition de ce programme de relance agricole 57 millions de dollars. Que cet argent n'aille pas dans des clubs d'amis, que cet argent n'aille pas dans les clubs, dans des familles, mais nous aimerions voir cet argent porter de fruits, qu'on mette en place un programme national de relance agricole où vraiment la population se retrouverait là-dedans.
Merci.
Aujourd'hui, tout le monde se plaint, où est parti le gouvernement? Or, avec des programmes comme celui-là, vous mettez les gens à leur place, dans leur responsabilité, ils produisent, ils savent se prendre en charge, et là, le plainte va un peu diminuer. Moi, je pense, à mon avis, que c'est ainsi qu'il faudra procéder par un programme national clairement défini de la relance agricole, et cet argent pourra profiter à la population, à tout le monde.
Merci beaucoup. Vous pensez qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut d'abord faire, hein? C'est avoir un programme national cohérent dans l'agriculture qui puisse permettre à ce que les paysans, qui leurs conditions de vie changent pour atteindre les millénaires pour le développement. Vous vous rappelez rappellerai que c'est la suite de notre débat d'hier par rapport à l'indice du développement humain où la RDC est classée dernière. Et vous tous, d'ailleurs, plusieurs auditeurs sont revenus pour dire qu'on peut renverser cette tendance en investissant dans l'agriculture. Mais vous souhaitez aussi que les 57 millions de dollars investis par le gouvernement pour cette campagne ne puissent pas se retrouver dans les poches trouées ou dans le club d'amis, mais que cela soit vraiment investi pour que les gens puissent se retrouver. Nous avons un autre auditeur qui nous appelle des Paris, c'est Caneva, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et on vous écoute rapidement.
Oui, je vais aborder dans le même sens que l'auditeur qui vient de passer. Alors, moi je dirais l'année dernière et les années antérieurs, on a vu des tracteurs, puisque moi j'étais venue au pays, j'étais à Kananga, j'étais à Mbujima et je suis passée un peu dans plusieurs provinces. On a vu des tracteurs décorer les gouvernorats. Hein, les tracteurs sont restés. Le gouvernement central a doté des provinces des tracteurs qui n'ont pas servi et ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté la production des paysans. Soit parce que je m'étais vraiment intéressée à la question, puisque je suis du domaine, je me suis intéressée à la question. J'apprenais que le sol n'était pas approprié, il y avait les tractoristes n'étaient pas formés. Dans certaines provinces, par exemple, en dehors de ce problème des tracteurs, dans certaines provinces, il y a des paysans ont toujours difficile à accéder aux semences améliorées. C'est aussi un grand problème. Alors on se demande, ces 56 millions de dollars, à quoi ils vont servir? Il faut que ça serve réellement aux paysans, puisqu'on le voit même ici à Kinshasa. Nous avons vu au plateau de Bateke, les vrais paysans n'ont pas des tracteurs. Et les tracteurs sont donnés aux ONG, aux amis, à ceux-ci, aux membres des partis politiques. Lorsque vous avez un parrain, on vous donne un tracteur, vous avez droit à un tracteur. Il faudra que le gouvernement nous explique à quoi vont servir ces 56 millions de dollars, parce que l'agriculture, c'est vraiment le moteur du pays.
Merci beaucoup.
Le développement d'un pays repose sur l'agriculture.
Merci beaucoup. Vous êtes revenu sur le problème de l'agriculture avec l'adaptabilité sur terrain, les études au préalable et les soucis, les souhaits de tout le monde, c'est que cette fois-ci, l'argent investi dans le secteur de l'agriculture puisse vraiment résoudre le problème. On va voir avec notre invité, parce qu'il y a aussi ces autres préoccupations que nous allons compléter. 081-890-4339, 081-890-3315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Docteur Ali Ramazani, vous avez suivi les uns et les autres. Il y a plusieurs questions qui sont revenues par rapport aux tracteurs. Les gens ont besoin vraiment de savoir ce qui est arrivé. Y a-t-il eu des enquêtes, des punitions, des sanctions envers ceux-là qui n'ont pas pu mettre ces tracteurs à la disposition du programme? De toutes les façons, c'est de l'argent dépensé pour le gouvernement. Il faudrait quand même que ceux qui ont reçu ces tracteurs rendent compte à un certain moment pour qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé, ou juste parce que c'est de l'argent qu'on a dû dépenser pour acquérir ces tracteurs. C'est pourquoi je pense que les gens ont tellement beaucoup de soucis là-dessus, mais il y a aussi des gens qui voudraient avoir plus de garanties, parce que vous avez suivi, André a dit que le niveau de vie de la population passe par l'agriculture, mais il voudrait avoir des garanties que l'argent investi peut aller vers les destinataires et porter vraiment des fruits. Voilà un peu les interventions de ce groupe d'auditeurs.
Oui, merci beaucoup. Je remercie beaucoup les trois intervenants. Je vois qu'ils ont les soucis du développement du secteur agricole. Et pour aller directement donc à la compte de leurs préoccupations, je dirais ceci, ils ont tout à fait raison. D'abord, les tracteurs. Les tracteurs, c'est vrai que le fait d'acquérir les tracteurs, c'était une bonne opération de la part du chef de l'État. Une très bonne opération de pouvoir doter le système de production agricole par la mécanisation. Mais, comme on dit, les tracteurs, c'est pas une panacée. Ce n'est pas le fait d'avoir les tracteurs qu'on peut résoudre les problèmes à tous les niveaux. Mmh. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème, nous le reconnaissons. C'est un problème d'abord de la distribution de ces machines. Deux, là où les machines sont arrivées, le gouvernement n'avait pas encore des ressources propices pour pouvoir mettre, d'abord avoir un plan de développement à partir des machines agricoles et des ressources pour accompagner les tracteurs. Parce qu'un tracteur, ça ne suffit pas seulement d'avoir les tracteurs, il faut avoir de très bons tractoristes, ça veut dire les techniciens qui sont formés pour travailler avec les machines, ce n'est pas n'importe quel chauffeur. Deux, il faut avoir une équipe de maintenance pour chaque fois les sorties des machines, on doit les remettre à l'état. Trois, et il faut avoir des ressources maintenant pour supporter les coûts des carburants, des lubrifiants et de la main-d'œuvre pour travailler sur les grands espaces. Donc ça, ça fait défaut et tout le programme a un peu fléchi. Deux, la distribution des tracteurs, ça ne devait pas se faire tel qu'on a fait. Ça ne devait pas. Parce que dans le programme du président de la République, il nous a été demandé clairement de constituer des groupes, comme on appelle ça, des équipes mécanisées. À supposer, nous sommes au plateau de Bateke, on met en place une équipe de machines qui se trouve à Doumi, qui regarde dans les 10 km, 20 km tout autour, les machines peuvent aller travailler et faire des champs selon la demande des bénéficiaires. Comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas donner le tracteur à tous les paysans. Un tracteur, c'est une machine qui est lourde, qu'il faut la connaître, qu'il faut savoir la tenir et qu'il faut savoir la réparer. Vous donnez à un paysan un tracteur, il a 2 hectares, 3 hectares, il ne peut pas rentabiliser cette machine. Tandis qu'une équipe mécanisée qui se trouve à proximité du paysan, où il peut accéder à sa demande, pour faire ces 5 hectares ou ces 6 hectares, 10 hectares, et puis il remet la machine sans s'encombrer avec toutes les charges inhérentes à la traiter des machines, c'est ça l'efficacité. Mais ça, ça n'a pas été fait. Et on va corriger cet aspect.
Oui.
Parce que pour rentabiliser une machine, il faut avoir au minimum 300 hectares pour que vraiment la machine soit utilisée pendant la période de la saison de préparation des sols et après. Sinon, vous avez 5 hectares, la machine travaille un jour, et les autres jours, vous allez faire quoi avec la machine? Vous la gardez derrière la case? Ce n'est pas rationnel. De deux, il faut maintenant accompagner ces travaux avec toute une provision de semences, de bonnes semences, pour que le programme colle. Si vous n'avez pas vous avez des tracteurs, vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas de bonnes semences, vous pouvez labourer des grands espaces, mais qui ne produiront rien. Ensuite, comme les autres l'ont dit, avoir un programme national, ça c'est un souci fondamental. Et nous avons travaillé là-dessus pendant plusieurs années pour avoir la vision du gouvernement en matière de politique agricole, avoir une note de politique agricole, avoir une stratégie du secteur agricole et rural, lesquels documents ont servi valablement pour la réduction de notre dette dans le cadre de PTE.
Oui.
Ces documents sont disponibles. Maintenant, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle le plan national d'investissement agricole, qui est le PNIA. C'est un plan qui est par tout le monde pour réduire résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire. On produit parce qu'il y a un projet mondial. Et dans le cadre de ce programme, il y a l'implication non seulement du ministère de l'Agriculture, mais du secteur privé et de tous les partenaires de développement.
Oui.
C'est un programme que nous allons valider pour montrer quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour développer l'agriculture de telle date à telle date. Et ces ressources doivent aller aux bénéficiaires. Pour le cas de la campagne actuelle, ce n'est pas même le ministère de l'Agriculture qui pilote ce programme. Il est piloté au plus haut niveau au vice-premier ministre et ministre du budget, qui régulièrement, on se retrouve autour de lui avec le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Vamwiti, et tous les autres ministres des Finances, ministres du budget, pour suivre au jour le jour où vont les ressources.
Oui.
Et les audits sont organisés. Ça, on peut tranquilliser tout le monde que si par le passé, l'argent qu'on mettait pour le secteur agricole, ça s'est distribué entre copains et amis, en tout cas, ce n'est pas avec le gouvernement Matata que les gens vont se mettre à faire ce type d'exercice. Ils vont se retrouver à Makala. Ça, je vous garantis, parce qu'on ne voit même pas à notre niveau, on ne voit même pas un franc au niveau du ministère. Ce sont les documents qui passent et qui vont à la banque pour vraiment atterrir là où on doit acheter les intrants, là où on doit acheter les vaccins, là où on doit acheter les équipements. Donc, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ouvre les yeux et les bons pour accompagner le gouvernement à la réussite, maintenant, du moteur de la croissance de notre pays, qui est le secteur agricole.
Voilà, on va écouter le dernier auditeur de cette émission. On va revenir à vous pour conclure. Philo, vous êtes à Kolwezi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et on vous écoute, nous tendons vers la fin de l'émission. Quelle est votre contribution ou votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle de savoir quelle est la part allouée pour chaque province pour cette campagne agricole, et est-ce qu'une étude de faisabilité a été faite en amont pour cerner les difficultés que rencontre le paysan?
Merci beaucoup, Philo. Je voudrais savoir s'il y a, dans la distribution de ces fonds, y a-t-il une part précise pour chaque province en termes peut-être de chiffres, mais aussi s'il y a eu vraiment une étude de faisabilité en amont pour éviter qu'il y ait de rater. Est-ce que vous avez une autre préoccupation, Philo?
Non, c'est la seule préoccupation que j'avais.
Merci beaucoup. Je reviens à vous, docteur Ali Ramazani. Il y a cette préoccupation par rapport à la part allouée à chaque province. Vous avez dû expliquer en termes d'investissement ce qu'il faut pour chaque province. Mais il y a aussi d'autres préoccupations comme par exemple l'éternel problème des gestions des terres, hein, entre l'exploitation minière, l'exploitation forestière et l'exploitation agricole. Y a-t-il eu aujourd'hui, y a-t-il maintenant des textes, je crois, il y a le problème des codes agricoles, codes forestiers, codes miniers, tout ça. Des fois, ça pose des problèmes au niveau des paysans qui ne savent où aller. Il va là-bas, on lui dit c'est devenu un carré minier. Est-ce qu'aujourd'hui on a un plan de vue global qui permet d'élaguer tous ces problèmes et faciliter l'exploitation agricole? Et je vais ajouter à cela la préoccupation aussi par rapport aux fermes. Vous savez qu'aujourd'hui les gens qui ont des moyens, ils vont se procurer des fermes, mais les fermes qui n'ont jamais été exploitées, on a eu des dossiers dans Parole aux Auditeurs il y a eu 2 ans je crois au Nord Kivu, où des paysans sont obligés d'aller sous si on peut dire louer les terres auprès de ceux qui ont acheté des fermes et qui ne les exploitent pas. Comment on peut résoudre tous ces problèmes aussi ramasser dans trois à quatre minutes pour conclure cette émission?
Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de faire ces exercices-là. Mm-hmm. Oui, d'abord, pour la répartition des fonds, on ne sommes pas allés par une sorte de partage arithmétique que voilà, X, Y, telle province, Z, telle province, Y. Non. Nous avons visé sur les spéculations. Et sur base de spéculation, on achète les équipements et on donne les équipements et les intrants pour la réalisation de la production de ce que nous voulons. Mm-hmm. Donc ce n'est pas une répartition arithmétique. Ça c'est pour être bref. Mm-hmm. Bon, deuxième préoccupation, la terre agricole. Donc, ça c'est une question assez épineuse. Bien sûr, nous avons eu la loi, ce qu'on appelle la loi foncière. La loi foncière qui détermine un peu comment les modalités d'acquérir la terre. Mmh. Mais comme vous le savez aussi, dans notre pays, nous avons ce que nous disons régulièrement, la dualité des lois. Il y a la loi sur l'acquisition des terres, mais il y a la loi aussi coutumière. Les chefs coutumiers qui détient presque donc l'autorisation pour avoir accédé à des terres agricoles. Bon, dans le cadre de notre démarche, après avoir élaboré la loi fondamentale sur les principes, la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, nous avons une deuxième tâche que nous sommes en train d'élaborer, c'est les cadastres agricoles. Dans les cadastres agricoles, ce sont les documents qui seront en compétition, pas en compétition, qui seront en harmonie avec ce qui existe déjà dans les cas des cadastres miniers,
oui.
Et puis dans les cas des cadastres forestiers. Parce que l'aménagement du territoire dans l'ensemble, il y a un problème. Et qu'il faut que les structures qu'il a avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, des Mines et consorts, on doit se mettre ensemble d'abord pour qu'il y ait d'abord cette cadre national de l'aménagement du territoire, qu'on identifie clairement les zones de production comme on le fait au niveau des mines, mais souvent que les mêmes zones sont en juxtaposition avec les zones agricoles ou avec les zones forestières. Donc il y a des travaux à faire à la matière. Nous allons produire notre cadastre agricole et avec les autres du gouvernement, donc l'environnement ainsi que le ministère des mines, et on doit établir maintenant les limites et les modalités d'accès, donc d'accession, de façon rationnelle et pour utiliser les terres. Et souvent qu'on n'arrive pas à marginaliser les terres agricoles fertiles pour essayer de produire les minéraux.
Mais il y a eu cette préoccupation, comme je disais, par rapport à ceux qui sont aujourd'hui en train d'acheter des fermes. Vous allez trouver quelqu'un qui a autant d'hectares qu'on n'exploite jamais. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'agriculture, mais bon, on garde ça, on dit c'est ma ferme. Et peut-être ceux qui ont souci d'exploiter n'ont pas accès. Comment on peut aussi résoudre ces problèmes?
Oui, cela, ça doit se trouver dans la loi. C'est ce qu'on appelle, donc, pour éviter la thésaurisation des sols agricoles. La loi doit prévoir, dans ce que nous sommes en train de faire, de finaliser, puisque nous avons déjà cette loi fondamentale, relatifs à l'agriculture, mais il y a les autres lois qui vont compléter, n'est-ce pas, cette loi fondamentale.
Merci.
C'est quoi? C'est par exemple, pour éviter la thésaurisation des terres, vous achetez la terre et on vous donne dans les documents de l'acquisition les modalités, les timings que vous devez mettre cette terre en valeur. Au-delà, où, donc, si vous n'avez pas respecté ce timing, l'État a le droit de récupérer le sol et de mettre à qui peut le faire, moyennant donc une rentabilisation rationnelle.
Merci.
Donc ça, c'est possible et c'est un problème qui va résoudre pas mal de difficultés et de conflits que nous avons au niveau du secteur agricole.
Merci beaucoup, docteur Ali Ramazani, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons merci. On a eu beaucoup de soucis des lignes téléphoniques pour avoir beaucoup d'auditeurs, comme on l'a toujours souhaité dans Parole aux auditeurs, mais tant mieux que mal, on a dû terminer cette émission avec vous. Et merci pour toutes les réponses que vous nous avez données dans cette émission. Nous vous disons vraiment merci.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs consacré à la forêt congolaise en marge de la célébration de la Journée mondiale de la forêt le 20 mars. Selon plusieurs organisations gouvernementales, nationales et internationales, la forêt congolaise est encore victime d'une exploitation illégale du bois. Ces ONG estiment que cette pratique plonge le pays dans un chaos organisé et prive les trésors publics de beaucoup d'argent. Les ONG indiquent que certaines sociétés ne respectent pas la loi congolaise dans les domaines d'exploitation forestière. Que faire pour mettre fin à cette situation? On prend rendez-vous demain à 11h03 heure de Kinshasa, mais vous pouvez également écouter encore cette émission sur www.radiocapi.net, mais elle est aussi en rediffusion en FM à 20h03 heure de Kinshasa, mais vous pouvez déposer déjà votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission, J.R. Lungembo, Titim Poutou à la réalisation, la technique assurée par Hippolyte Kapanga et Dieudonné Nyangasa. Ben Kabamba l'a supervisé. Au revoir.